Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio de la Paix, à la une de ce 12h. Les partis politiques ont été récemment formés sur le parrainage et le découpage électoral, une initiative de la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, CIED, qui vise à prévenir les crises pré- ou post-électorales pour les prochaines échéances. Et puis l'inspection générale d'État a officiellement lancé vendredi dernier ses activités pour l'année 2024, une cérémonie au cours de laquelle l'inspecteur général d'État, Awadon Mello, a appelé ses agents à travailler en synergie pour l'atteinte des objectifs. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles survenus dans le pays depuis 2021. Dans l'invité de la rédaction, on revient sur la levée des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Niger, le Mali et la Guinée pour Guessant Kouadio, docteur d'État en histoire contemporaine et professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette décision est salutaire. Il sera interrogé par Aoussi Potin. La concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, CIED, vient d'initier une formation des partis politiques sur le découpage et le parrainage électoral. Son président, Dr Blé-Pierre Norlander, revient sur les raisons de cette initiative.
Cette initiative est le fait que nous allons bientôt en 2025 pour les élections présidentielles, en 2026-2028, on a un nouveau cycle électoral. Et donc, il faut éviter que nous ayons de la violence pendant ces joutes électorales. Parce que par le passé, nous avons vécu certaines choses qui n'ont pas été agréables pour les citoyens ivoiriens. Et maintenant que nous sommes en phase avec les acquis de la paix, il faut maintenir ce climat-là pour que nous puissions avoir des élections sans violence.
Donc, parlons donc de découpage. Est-ce qu'un problème spécifique existe à ce niveau?
Oui, il y a un déséquilibre qu'il faut vraiment arranger parce que après plusieurs constats, il y a des zones où, par exemple, nous avons, pour le même nombre d'habitants, différents nombres de sièges. Et ça, ces régions-là, il faut réparer le quota de sièges qui leur sont accordés. Par exemple, si dans une région donnée X, on a 100 000 habitants avec deux députés, on ne leur dira pas d'enlever les deux députés. Mais là où on a 100 000 habitants avec un député, il faut seulement ajouter un autre pour que l'équilibre soit fait. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Ce sont ces genres de problèmes que nous avons dans certains endroits.
Vous écoutiez le président de la CIED. La concertation était partie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Docteur Blé-Pierre Norlander était en ligne avec Junior Cardin. Parlant de croissance économique dans le monde, l'Afrique particulièrement domine ce classement des 20 pays à la croissance la plus forte en 2024. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque africaine de développement intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique ». Ce document souligne qu'en 2024, le continent africain comptera 11 des 20 pays ayant la croissance mondiale la plus forte, dont la Côte d'Ivoire qui occupe la 5e place. Comment analyser ces résultats macroéconomiques? Suivons l'éclairage de Dr Germain Cramo, enseignant en économie et chercheur à l'ACAPEC.
La santé d'une économie est mesurée généralement par le taux de croissance de ses économies, mais présenter ce résultat de cette manière peut laisser cacher certaines réalités. Et pour les pays développés, réaliser déjà un taux de croissance d'1%, de 2%, constitue déjà une performance assez importante. Donc, on pourrait comparer les pays sous-développés entre eux. Ça aurait été donné encore plus d'importance à cette comparaison. Mais comparé à l'ensemble des pays du monde, on peut se flatter, mais ça peut cacher aussi des réalités. Des pays peuvent réaliser des taux de croissance élevés, mais en termes de richesse créée par personne, on vous verra que la performance n'est pas aussi au rendez-vous. Par exemple, les pays peuvent réaliser des taux de croissance assez élevés, mais au niveau de certains indices comme le développement humain, les questions d'éducation et de santé, les pays peuvent être moins bien classés. Ce qui fait qu'il est toujours important de ramener cette création de richesse-là pour voir quel est son impact sur le bien-être des populations.
En nous intéressant aux projections de l'année 2024 en ce qui concerne les résultats macroéconomiques, des pays comme le Niger, avec 11,2% en 2024, le Sénégal, 8,2%, 5%, la Libye 7,9%, le Rwanda 7,2% et la Côte d'Ivoire en 5e position 6,8%. Quel commentaire cela vous inspire?
Dans ces pays, il y a beaucoup à faire. Donc, ce qui fait que lorsqu'on réalise certains investissements, cela permet d'avoir un effet plus important sur le PIB. Donc, voici plus ou moins ce qui explique cette forte croissance.
Docteur Germain Cramaux, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, il était avec Jean-Claude Koumé. Déguerpissement et démolition à Abidjan pour le Conseil national des droits de l'homme. Ces opérations telles que menées mettent à mal certains aspects des droits de l'homme. Le CNDH invite donc le district autonome d'Abidjan à revoir et recadrer ces opérations, comme le souligne ici son chef département droit civil et politique, Oka Thierry.
C'est le droit au logement qui est mis à mal parce que des maisons, des commerces sont détruites. C'est aussi le droit à l'éducation parce qu'on a pu observer par endroits que des écoles ont été détruites. Ce genre de situation d'opération de démolissement de maisons entraîne un impact sur le droit à la santé, le droit à la vie.
Quel recours existe pour ces personnes qui aujourd'hui, en vous écoutant, découvriront que certains de leurs droits ont été lésés? Est-ce qu'il y a des recours juridiques?
Il y a plein de voies qui s'offrent aux populations. Nous sommes dans un état de droit. Et les tribunaux sont là pour recueillir les plaintes des populations. Mais pour le Conseil national des droits de l'homme, de prime, il convient d'inviter ces populations à s'organiser en un collectif assez fort pour pouvoir vraiment rester en justice. Parce que sur le terrain, nous avons pu observer des populations qui sont détentrices de titres fonciers. Le titre foncier est quelque chose d'assez sérieux dans notre État. Et donc, il y a des voies d'urgence. Pour les personnes déjà qui ont vu leur maison démolie, il y a des procédures devant les tribunaux, mais pour ces personnes aussi qui sont menacées de voir leur habitation détruite, il y a la procédure de référer d'heure à heure, qui est une procédure d'urgence qui pourrait être utilisée pour faire sursoir à ce genre d'action. Le CNDH suggère des actions beaucoup plus humaines qui respectent les droits de l'homme conformément à notre mandat. Il ne s'agit pas de faire des reproches à qui que ce soit.
Oka Thierry, chef département droit civil et politique au Conseil national des droits de l'homme, il a été joint par Aoussi Potin. Vie des institutions, l'inspection générale d'État, organe supérieur de contrôle de l'ordre administratif de notre République, a organisé le lancement solennel des activités de ces organes de contrôle du corps administratif le vendredi 23 février dernier. Cette cérémonie a été marquée par des échanges entre les structures de contrôle interne de l'administration ivoirienne et l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile. Jean-Claude Mabéa.
Intervenant au nom des structures du contrôle de l'ordre administratif, Georges Claude Ouattara, inspecteur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, a salué les efforts de l'inspection générale d'État avant d'émettre les vœux suivants.
Les structures de contrôle de l'ordre administratif souhaiteraient réitérer leur confiance totale à M. l'inspecteur général d'État pour la poursuite en vue d'un aboutissement heureux de toutes les réformes qui sont en cours et dont les tests sont à un niveau élevé par son action, afin que 2024 voit enfin l'aboutissement de tous ces tests.
L'inspecteur général d'État a exprimé sa satisfaction pour le travail accompli en dépit des défis rencontrés, non sans les exhorter à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs à eux assignés. Théophile Awa Ndoli.
En attendant l'adoption fort attendue de ce projet de texte, je voudrais vous encourager à poursuivre avec sérénité et assurance vos missions, conformément aux normes qui régissent notre métier, et ce, en dépit des difficultés et insuffisances des ressources humaines, financières et matérielles. D'ailleurs, dans peu de temps, nous allons nous retrouver tous pour faire le bilan de notre travail et voir les perspectives.
À noter que le rapport final de l'inspection générale d'État de 2023 sera bientôt remis au président de la République, a annoncé l'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli.
Et nous nous rendons à Bouna où des jeunes facilitateurs communautaires en charge de l'installation et du suivi des AVEC, entendez, associations de valorisation d'entraide et de crédit, ont, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PGDEC, financé par la Banque mondiale, eu récemment leurs compétences renforcées par l'ONG Aklalé qui pilote le projet dans le Bounkani. Les échos de cette activité avec notre correspondant sur place, Jérôme Kwasi.
Pour la mission assignée à ces animateurs facilitateurs communautaires formés, avec Akungé Saint-Ange, Flavie Elodie de l'ONG Aklalé, facilitatrice.
Nous avons une formation avec les différents facilitateurs qui a consisté à leur former sur la méthodologie AVEC. Comment s'y prendre quand ils seront dans les villages pour former à leur tour aussi les différents groupements qui seront mis en place après sélection des différents enrôlés. Il s'agira aussi pour eux de former la population sur comment ils doivent se comporter dans le groupement, comment mettre en place différents règlements intérieurs et aussi au cas où ces règlements ne sont pas respectés, il y a une amende qui sera versée.
Les AVEC sont une composante opérationnelle du projet PGDEC, emploi jeune pour le développement des compétences associées à d'autres dispositifs comme les TIMO, AJR, MPE, micro et petites entreprises portées par le conseil régional du Bounkani. Pour une raison d'équité, le PGDEC fait une part belle aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes vivant avec un handicap. Kwame Paul Marie, coordinateur régional du PGDEC.
Une frange de la population est plus ou moins marginalisée, à savoir les personnes vivant avec un handicap. Les femmes dans notre région, elles produisent beaucoup, mais elles sont, on va dire, mal rémunérées. Et donc, le partenaire a estimé, au regard des chiffres alarmants dans la région du Bounkani, sur la dynamique du genre, les candidatures des femmes sont encouragées.
Le projet PGDEC, qui est dans la phase 3 des équations dont bénéficie cette année la région de Bounkani, pour les associations villageoises d'épargne et de crédit, est financé par la Banque mondiale dans le Nord. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Et dans le Haut-Saint-Sandra, ce sont au total 10 ambulances pour les hôpitaux, 4 véhicules de type 4x4 pour les chefs centraux et des chèques pour honorer les promesses faites aux 397 chefs de village et de communautés qui ont été offerts. Le conseil régional du Haut-Saint-Sandra avec à sa tête son président, le ministre Mamadou Touré, à travers une cérémonie organisée vendredi dernier à Daloa, veut respecter ses engagements de campagne. Le contrôle rendu de cette cérémonie avec Jean-Noël Kwami.
À travers cette cérémonie, le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Saint-Sandra, entend traduire dans les faits ses promesses de campagne pour le bien-être des populations de la région.
25 000 francs par mois à chaque chef, c'est 510 millions les 5 prochaines années, donc près d'un demi-milliard de francs CFA. Le conseil régional a décidé de payer la totalité de vos cotisations annuelles auprès de la couverture maladie universelle pour vous permettre de vous soigner à moindre coût. Et les autres chefs seront fiers de voir les chefs de Haut-Saint-Sandra arriver dans leur belle voiture aux réunions. Je me réjouis donc aujourd'hui qu'on puisse remettre 10 ambulances et j'espère que cet important don va contribuer à renforcer votre rôle au niveau de la cohésion sociale.
Après avoir reçu les chèques, les clés des ambulances et des véhicules offerts aux chefs centraux, les chefs ont exprimé leur gratitude au président du conseil régional.
Vous nous avez fait une promesse, celle de nous accorder une subvention. Chose promise, chose faite. Nous sommes vraiment fiers de vous.
Quand on parle du développement, ce n'est pas seulement les immeubles et puis du mage, mais c'est la mentalité aussi.
Ambulance, véhicule pour le déplacement des chefs. Vous avez la bénédiction de toutes les communautés qui résident dans le Haut-Saint-Sandra.
Le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional, a saisi l'occasion de cette cérémonie pour inviter l'ensemble des populations du Haut-Saint-Sandra à œuvrer pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement de la région. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a annoncé ce lundi un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale, a-t-il dit, avant d'affirmer son souhait d'organiser la présidentielle d'ici à juin-juillet, alors qu'un vaste front réclame cette présidentielle avant le 2 avril prochain. Dans l'invité de la rédaction, on revient sur la levée des sanctions économiques de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'encontre du Niger, mais également du Mali et de la Guinée. C'était lors d'un sommet exceptionnel à Abuja, au Nigeria, les 24 et 25 février. Pour Guessan Kouadio, docteur d'État en histoire contemporaine et professeur titulaire en histoire des relations internationales, eh bien, cette décision ne doit pas être perçue comme un désaveu pour la CDAO, mais plutôt une décision à saluer. Un entretien de Aoussi Potin.
Professeur Guessan Kouadio, bonjour.
Bonjour.
Le week-end dernier, la CEDEAO a pris des décisions donc de lever les sanctions au niveau donc du Niger, mais aussi de lever les sanctions en ce qui concerne la Guinée et le Mali. Quelle lecture vous en faites? Qu'est-ce qui a pu motiver cette décision de la CEDEAO maintenant de lever ces sanctions pour ces trois pays?
Je voudrais d'ores et déjà affirmer que la levée de ces sanctions est une très bonne chose pour les différents pays concernés, mais aussi pour cette institution communautaire de l'Afrique de l'Ouest que la CEDEAO. Je pense qu'à l'analyse, les pays membres de la CEDEAO ont fini par se rendre compte que les mesures imposées au Niger et à l'ensemble des pays de l'AES étaient un peu trop draconiennes et qu'il fallait faire preuve quand même d'un certain humanisme, comme le réclament aussi certains textes de cette organisation sous-régionale. Autre élément, c'est que initialement, ça avait été une action de force qui avait été initiée avec l'usage de la force militaire pour régler, n'est-ce pas, les différents problèmes auxquels ces pays étaient confrontés. Donc, n'ayant pas pu mettre en application cette première décision et le temps passant, les pays membres de la CEDEAO se sont ravisés et on trouvait que la voie diplomatique était la meilleure.
Pour certains observateurs, hein, le fait que ces décisions récentes aient été prises par la CEDEAO est perçu comme un rétropédalage, voire un aveu d'impuissance de l'institution internationale. Vous faites la même lecture ou pas?
Oui et non.
Et pourquoi?
Oui, parce que au départ, la première mesure qui avait été décidée, comme je le disais tantôt, c'était l'usage de la force armée. Mais certainement que les chefs d'État et les États-majors des différents pays membres de la CEDEAO non seulement s'étaient rendus compte que cela ne pouvait pas forcément aboutir, mais qu'il y avait une meilleure solution à adopter vis-à-vis du Niger et des autres pays de l'AES, notamment la voie diplomatique, car quelle que soit la situation de guerre, on finit toujours par régler les choses par le dialogue et la négociation.
Alors, mais est-ce qu'aussi, quelque part, la décision qui a été prise par trois pays, savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, de créer l'Alliance des États du Sahel, n'a pas quelque peu poussé la CEDEAO à vite décider de lever les sanctions pour ne pas que finalement elles mettent à exécution leur désir de sortie de l'institution sous-régionale?
Oui, ça aurait été une décision assez grave, catastrophique, qui aurait certainement entaché, décrédibilisé l'institution sous-régionale.
Alors, professeur Guessan Kouadio, on note aussi que pour l'instant, la décision de sortir de la CEDEAO, décision prise par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est toujours pendante. Elle n'a pas encore été levée par ces trois pays. On a aussi donc cette décision prise par la CEDEAO de lever finalement les sanctions, pas seulement pour le Niger, mais aussi pour le Mali et la Guinée. Alors, lorsqu'on fait une lecture de tout ça, est-ce que l'on peut dire que le temps est venu pour la CEDEAO de penser, repenser son mode de fonctionnement après cette crise en griffe?
Oui, tout à fait. Je pense que le temps est venu, comme je le disais tantôt. Il y avait plus à gagner pour la CEDEAO d'engager le dialogue, le vrai dialogue, plutôt que de penser tout de suite à l'usage de la force armée. Et vous avez dû constater que dans ce bras de fer, à part la France, qui est l'ancienne puissance coloniale, les États-Unis et l'Allemagne sont restés fermes sur leurs décisions, estimant que la diplomatie et le dialogue devait être mis en avant pour le règlement de ce conflit entre ces pays que vous avez cités et la CEDEAO. La CEDEAO, je le rappelle, c'est une institution communautaire destinée à promouvoir la paix, mais d'abord et avant tout le développement économique et social, n'est-ce pas, des pays membres. Je le répète, à l'instar de l'Union européenne, qui a un fonds appelé le Fonds européen de développement régional, qui vient en aide aux différentes régions des pays membres de l'Union européenne pour favoriser le développement économique et social. Ce n'est pas encore le cas avec la CEDEAO, même si des initiatives au tout début avaient été initiées, comme la construction, n'est-ce pas, des cimenteries au Togo, etc. Mais il reste beaucoup, beaucoup à faire au niveau de la CEDEAO.
Professeur Guessan Kouadio, nous vous disons merci pour tous ces éclairages.
Merci beaucoup et je vous en prie.
C'était à l'instant l'invité de la rédaction, professeur Kouadio Guessan, docteur d'État en histoire contemporaine et professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il répondait aux questions de Aoussi Potin. Et voilà qui referme les pages de ce journal dont voici les titres. Les partis politiques ont été récemment formés sur le parrainage et le découpage électoral, une initiative de la concertation interpartie pour les élections démocratiques en Côte d'Ivoire, CIED, qui vise à prévenir les crises pré- ou post-électorales pour les prochaines échéances. Et puis l'inspection générale d'État a officiellement lancé vendredi dernier ses activités pour l'année 2024, une cérémonie au cours de laquelle l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, a appelé ses agents à travailler en synergie pour l'atteinte des objectifs. Et puis enfin au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles survenus dans le pays depuis 2021. Ensuite, la revue de presse pilotée par Aoussi Potin.
Bonjour à tous. Première escale de notre revue de presse de ce jour, les opérations d'envergure de déguerpissement et de démolition de sites d'habitation et de commerce sur plusieurs espaces dans le district autonome d'Abidjan. Opérations qui ont commencé.